Journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il y a eu plus de 730 morts au travail en 2022 en France. Une hécatombe silencieuse dont commence à s'emparer la classe politique. Des annonces sont attendues cet après-midi.
La liquidation judiciaire de Railcoop devrait être prononcée aujourd'hui. La coopérative ferroviaire voulait relancer la ligne de train Bordeaux-Lyon.
Reportage en Ukraine, dans la seule école de Kharkiv où les enfants peuvent aller en classe, sinon tous les cours se font à distance à cause de la guerre.
Et puis, dans un quart d'heure, vous retrouverez le billet politique de Jean Lémarie. À quel point la guerre à Gaza peut-elle peser sur les élections européennes ? Élément de réponse à 8h15.
Plus de 2 personnes en moyenne meurent au travail chaque jour en France. Ces statistiques datent de 2022 et semblent empirer depuis le début de l'année. Longtemps, ces drames se sont déroulés dans l'indifférence générale, mais désormais le sujet s'invite dans le débat politique. Pour faire baisser ce nombre, le gouvernement va dévoiler cet après-midi 12 mesures. Les syndicats Camille Magnard ont déjà une idée précise de ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à l'hécatombe.
Il faut d'abord sortir des doubles discours, s'insurge Simon Picou de la CGT des inspecteurs du travail, un corps qui voit ses moyens et effectifs réduits depuis des années, sous l'impulsion de gouvernements qui misent sur la simplification des règles, des normes et des contrôles pour les employeurs.
Il faut qu'il y ait des instances, des institutions qui puissent contester un certain nombre de décisions de l'employeur, les contrôler, mettre leur nez dans ce qui se passe dans les entreprises. Donc ça, effectivement, ça contrevient aux logiques de profit économique, c'est certain. Mais il faut choisir entre les deux.
Remettre en place, par exemple, les CHSCT, ces instances dédiées à la santé et à la sécurité dans les entreprises, c'est une nécessité, confirme Isabelle Mercier, secrétaire nationale à la CFDT.
L'évolution des instances représentatives dans les entreprises avec les ordonnances Macron de 2017 ont mis un coup d'arrêt à la place que prenaient avant les CHSCT. La stratégie économique a forcément un impact sur l'organisation du travail.
Avec dans le viseur le recours à l'intérim, au contrat précaire et à la sous-traitance en cascade. Ce sont ces salariés-là qui sont surreprésentés dans les statistiques des morts au travail. À la CGT, Simon Picou s'en prend aussi au manque de suite judiciaire quand les inspecteurs du travail, comme lui, enquêtent sur des morts au travail.
Ces procès-verbaux, dans les 2/3 des cas, ils ne donnent lieu à aucune poursuite. Comment prétendre faire respecter des règles si derrière, il n'y a aucune sanction ?
Petit rappel, ce chiffre de 2 morts par jour au travail, il ne concerne que les travailleurs affiliés au régime général, pas ceux de la fonction publique ni du monde agricole. La réalité est donc plus dramatique encore dans un pays, la France, qui se classe en la matière parmi les plus mauvais élèves d'Europe.
Bruno Le Maire veut éviter que les activités d'Atos ne passent dans les mains d'acteurs étrangers. Le ministre de l'Économie et des Finances a envoyé une lettre d'intention aux géants informatiques en vue d'acquérir toutes les activités souveraines du groupe. En difficulté financière, il possède notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire et des contrats avec l'armée française. En grande difficulté aussi, c'est la fin de Railcoop. Le tribunal de commerce de Cahors s'apprête à prononcer aujourd'hui la liquidation judiciaire de la coopérative ferroviaire. Lancée au moment de l'ouverture du rail français à la concurrence, Railcoop voulait rouvrir la ligne de train Bordeaux-Limoges-Lyon, abandonnée il y a plus de 10 ans par la SNCF et l'État. Le projet ne verra pas le jour, malgré l'argent investi par 15 000 sociétaires. La raison est purement économique. Créer une compagnie ferroviaire coûte extrêmement cher. Résultat, seuls de grands opérateurs déjà bien installés ont jusqu'à présent réussi à se lancer sur le marché français, Valentin Bertrand.
Les deux premiers concurrents de la SNCF sont tout simplement des homologues étrangers, l'italien Trenitalia et l'espagnol Renfe, tous deux d'anciens transporteurs en situation de monopole avant la libéralisation du rail. Railcoop, de son côté, est parti de zéro, comme l'explique Nicolas de Bézieux, le PDG.
On a réussi à lever 10 millions d'euros. Mais ce n'est pas suffisant pour démarrer sur ce marché ferroviaire. Je rappellerai qu'un train neuf, c'est à peu près 18 millions d'euros. Nous, on avait réussi à avoir des trains d'occasion, mais ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est financer en fait la rénovation de ce matériel roulant.
Des difficultés renforcées selon lui par la réticence des banques à prêter à une coopérative. Mais au-delà, le ticket d'entrée sur le rail est surtout bien plus élevé.
Une entreprise ferroviaire qui doit entrer, c'est entre 500 millions et 1 milliard qu'il faut.
Patricia Perenes est économiste, spécialiste du ferroviaire au sein du cabinet Transmission. Et selon elle, ses coûts limitent la création de nouvelles compagnies.
En Europe, il y a quelques entrants. qui sont extérieurs. Mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. En Italie, il y a l'Italo. En République tchèque, il y a un fils de milliardaire qui a lancé un truc qui s'appelle Leo Express, mais c'est un fils de milliardaire, c'est pas anecdotique. Et si on regarde l'Espagne, il y a deux concurrents, SNCF et Trenitalia. Donc en fait, c'est pas du tout, comme on dit en bon français, des greenfield, c'est-à-dire des entrants nouveaux.
En France, trois nouveaux transporteurs y croient malgré tout. Le Train Voyage espère faire rouler ses premiers TGV dans le sud-ouest en 2026, trois ans après la première date annoncée. Midnight Train cherche encore des fonds pour ouvrir sa ligne de train de nuit haut de gamme dans deux ans. Et Kevin Speed, qui vient d'obtenir ses droits de passage sur les rails du Nord-Est à partir de 2028.
Valentin Bertrand. Les finances publiques sont à l'agenda des députés aujourd'hui avec un débat sans vote dans l'hémicycle, un angle d'attaque contre la majorité présidentielle à l'approche des européennes le 9 juin prochain. Et si ce n'est pas déjà fait, il est encore temps de s'inscrire sur les listes électorales. Jusqu'à mercredi sur Internet ou vendredi en mairie, à la dernière présidentielle, un Français sur six était inscrit ailleurs que dans sa commune. Et ça ne devrait pas être beaucoup mieux cette fois-ci malgré les campagnes de communication, Rosalie Lafarge.
À chaque élection, depuis une quinzaine d'années, le constat est à peu près le même. Entre 7 et 8 millions de personnes sont mal inscrites sur les listes électorales, la plupart du temps parce qu'elles ont déménagé.
On ne progresse pas tellement et c'est d'ailleurs assez inquiétant parce que c'est un véritable bug démocratique.
Pour le politologue Dorian Dreuil, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et co-président de l'ONG A Voter, qui se mobilise notamment pour lever les freins à la participation électorale, cette date limite d'inscription 6 semaines avant le scrutin est bien trop contraignante.
Il y a un chiffre qui est inquiétant, mais qui dit tout de finalement de la situation et du rapport de l'opinion au vote, c'est que près de 71% des Françaises et des Français ne sont pas au courant de la date du scrutin. On le voit notamment chez les jeunes, ce qu'on appelle la cristallisation autour du vote, c'est-à-dire le fait de se décider d'aller voter ou pas, ou l'intérêt pour un scrutin, il se fait dans les tout derniers jours avant l'élection. Et donc c'est là qu'il faudrait avoir la possibilité de mettre à jour son inscription sur les listes. C'est pas qu'un enjeu technique, c'est aussi un enjeu politique parce que ça a un impact direct sur l'abstention, notamment chez les jeunes.
Le risque d'abstention multiplié par 2,5 quand on est mal inscrit, soulignent des chercheurs. Or, la mal inscription est particulièrement fréquente chez les jeunes et pourrait donc minorer des prévisions de participation pour l'instant peu engageantes. Dans ce scrutin qui mobilise habituellement assez peu, les dernières études IFOP prévoient à ce stade plus de 50% d'abstention générale et plus de 70% chez les 18-24 ans.
Le mémorial de la Shoah à Paris inaugurait hier un nouveau monument, un mur numérique qui compte aujourd'hui 4000 noms et pourra être complété au fur et à mesure. Car c'est à un pan encore incomplet de l'histoire des Juifs de France sous le nazisme que ce dispositif rend hommage. Des Juifs qui sont morts du nazisme, mais pas dans des centres de mise à mort, Chloé Leprince.
L'immense majorité des Juifs de France assassinés par les nazis sont morts en centre de mise à mort et pas en camp de concentration, comme on l'entend encore dire parfois. Ils sont morts parce que Juifs, déportés en tant que Juifs, pour ce que les nazis regardaient comme des raisons raciales. C'est à eux qu'en 2005, dans la cour du mémorial de la Shoah à Paris, on a dédié ce monument qu'on appelle le mur des noms. 75 568 noms, les noms de ceux qui avaient été déportés en tant que juifs au nom de la solution finale. C'est le seul endroit où l'on peut prendre la mesure d'un seul regard de l'ampleur de ce que ça a pu représenter, cette élimination méthodique programmée.
Et il y a 20 ans, Chloé, le mémorial avait fait appel aux familles, aux descendants pour édifier ce mur des noms.
Il fallait compléter les listes lacunaires de la Gestapo, qui avait renseigné le nom de ceux qui partaient par convoi, compléter aussi le registre d'Auschwitz. 20 000 formulaires étaient revenus, or tous ne correspondaient pas à l'histoire de la déportation par convoi vers les centres de mise à mort. Pendant la guerre, plus de 2500 juifs sont morts ici, en France, dans des camps d'internement, celui de Gurs par exemple. Eux avaient bien été enfermés parce qu'ils étaient juifs, par Vichy ou par les nazis. Mais les Allemands n'avaient pas eu le temps de les déporter par convoi. Ils étaient morts avant de mauvais traitements, de maladies. À Drancy, il arrivait aussi qu'on fasse sortir l'un ou l'autre pour l'exécuter au Mont-Valérien, principalement parce qu'il aura été résistant, mais pas spécifiquement parce qu'il sera juif. Parfois, les faux papiers étaient en béton et les nazis n'en sauront rien jusqu'au bout. C'est le cas encore pour ceux qui ont bien été déportés, mais eux en camp de concentration et pas en camp d'extermination. Et ils se trouvaient là en camp de concentration parce qu'ils n'avaient pas été identifiés comme juifs. Ce sera le cas du syndicaliste et résistant Henri Krasucki, par exemple. Lui est revenu, mais d'autres pas. Or, ils ne sont pas sur le mur des noms, dans la mesure où ils n'ont pas fait partie des convois de l'épuration des juifs. C'est à eux tous, et uniquement à la demande des familles, pour ne pas avoir à dire qui était juif et qui ne l'était pas, que le mémorial dédie ce nouveau monument inauguré hier. Dans les deux cas, des gens sont morts à cause du nazisme, mais pas dans les mêmes proportions.
Les précisions de Chloé Leprince.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. La Russie remporte des succès tactiques, reconnaît le commandant en chef de l'armée ukrainienne.
Il explique que la situation sur le front s'est détériorée. L'armée ukrainienne est à la défensive depuis l'échec de sa grande contre-offensive l'été dernier. Elle peine à mobiliser de nouveaux soldats et espère avoir toujours le soutien des Occidentaux. 2 ans après le début de l'invasion russe, la vie continue autant que possible. Mais à Kharkiv, ciblée quotidiennement par des frappes, les élèves ne sont pas retournés en cours depuis. Tout se fait à distance ou presque. Agathe Mahué s'est rendue dans le seul établissement de la ville où les enfants peuvent aller en classe, réfugiés dans l'abri anti-atomique de l'école.
Pour trouver les élèves, il faut donc descendre au sous-sol. Cours d'ukrainien pour les plus grands, des ados de 14 ans, ils sont une dizaine. Et sur le grand écran au mur, vous voyez les élèves qui sont à distance, en train de se connecter. 700 élèves avant la guerre dans cette école, ils ne sont plus que 250 et viennent à tour de rôle depuis 3 mois dans ce sous-sol datant des années 50 et complètement rénové l'hiver dernier. Caroline dit qu'ils sont très chanceux d'avoir cette solution.
Revenir ici, c'est super. Au moins, on peut courir un peu dans les couloirs de l'école.
Mais pas question pour autant de sortir dans la cour de récréation. Trop risqué. La pause se fait seulement dans le hall. Et même pas le temps de se détendre, l'alerte aérienne se déclenche sur Kharkiv. Retour à l'abri. Dans la classe des petits, Adelina soupire.
Je voudrais vivre en paix. Que l'on puisse aller au cinéma, au parc, et qu'il n'y ait plus de sirènes.
L'équipe de Svitlana parvient même à maintenir une cantine.
Vous êtes content d'être à l'école ?
Et la rénovation de l'abri donne des idées à d'autres établissements scolaires de Kharkiv qui vont à leur tour se lancer dans les travaux.
Reportage d'Agathe Mahuet, Jérémy Thuil et Yachar Fazilov. Anthony Blinken est arrivé en Arabie Saoudite aujourd'hui pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient. L'occasion pour le chef de la diplomatie américaine de promouvoir une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien doit donner sa réponse aujourd'hui. Hier, il a dit n'avoir aucun problème majeur avec cette proposition. Un cessez-le-feu associé à la libération des otages. Une réunion est prévue au Caire avec l'Égypte et le Qatar aujourd'hui, près de 7 mois après le début de la guerre déclenchée par les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Après 5 jours de réflexion, le socialiste Pedro Sanchez devrait dire aujourd'hui s'il démissionne. Le chef du gouvernement espagnol avait dit l'envisager la semaine dernière dans une lettre adressée aux citoyens et publiée sur les réseaux sociaux après l'ouverture d'une enquête à l'encontre de sa femme pour trafic d'influence et corruption. À Madrid, Marie-Hélène Ballesteros.
Le week-end a été intense. Plusieurs manifestations de soutien à Pedro Sanchez ont rassemblé des milliers de personnes dans les rues de la capitale et notamment samedi dernier devant le siège du Parti Socialiste Espagnol. Les sympathisants et militants comme Manuel sont venus lui demander de ne pas démissionner même s'ils sont conscients que leur leader est à bout de souffle.
Nous venons soutenir notre président, le meilleur président que nous ayons jamais eu. Nous voulons qu'il se sente soutenu par tout le monde pour qu'il puisse se remettre et qu'il redevienne ce qu'il a toujours été. Nous sommes avec lui. J'espère qu'il va retrouver la force, qu'il pourra reconsidérer sa position et qu'il sera capable de revenir.
Dans sa lettre, Sanchez a dénoncé mercredi dernier une plainte déposée contre sa femme, basée sur des faits inexistants et une campagne de harcèlement menée par la droite et l'extrême droite. David comprend parfaitement ce qu'endure le chef du gouvernement. Ancien maire socialiste d'une petite commune de Ségovie, au nord-ouest de Madrid, il a lui aussi vécu un calvaire.
J'ai été maire pendant 12 ans et j'en ai fait l'expérience. Ils ont eu raison de mon mari. Et mes filles sont également victimes de harcèlement à l'école parce que leur père est rouge. C'est de plus en plus tendu à cause de la droite et de l'extrême droite. En tant que père, je m'inquiète de l'Espagne que nous allons laisser. Une Espagne en proie à la confrontation, tout cela parce que la droite et l'extrême droite veulent qu'elle soit divisée.
Le climat politique en Espagne est très tendu et il ne risque pas de s'apaiser aujourd'hui après l'annonce de la décision de Pedro Sanchez.
Marie-Hélène Balestero. 4 hommes, 4 femmes pour le jury de la 77e édition du Festival de Cannes qui vient d'être dévoilé. Sous la présidence de la réalisatrice américaine Greta Gerwig, figure du cinéma d'auteur devenue reine du box-office avec Barbie, on trouve les actrices Eva Green et Lily Gladstone, mais également Omar Sy ou encore le réalisateur japonais Hirokazu Koreeda. Palme d'or en 2018 pour Une affaire de famille. Le festival commence dans 2 semaines. Météo France prévoit une journée encore perturbée, des pluies de l'Occitanie à la Bourgogne. 18 degrés attendus à Lille, Paris et Bordeaux cet après-midi, jusqu'à 26 à Ajaccio. 8h04.